Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1, nous sommes ensemble pour une heure encore et vous le savez, ce soir démarre notre week-end et puis c'est aussi les vacances pour certains d'entre nous. Alors, on a eu envie de vous aider à voyager depuis votre canapé, ce n'est pas vous qui allez faire la queue pour entrer au musée ni pour assister à un concert, ce sont les spectacles aujourd'hui qui vont venir à vous et vous allez voir que musique, théâtre, danse, tout le monde s'y met pour m'accompagner tout au long de cette émission et je sais qu'elle a une âme d'artiste, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes. Et à tous, vous lisez en ce moment, vous arrivez à voler une heure ou deux pour visiter des musées.
Exactement, je prends un tout petit peu de temps le soir.
Il faut, tranquille. C'est nécessaire.
Vous avez aussi le 3921 si vous voulez venir participer à l'émission, vous le savez. Et puis le Twitter hashtag Radio Ouverte si vous avez envie de participer, de réagir ou de poser une question. Et vous, n'oubliez pas, Roland Pérez sera tout à l'heure juste avant 14h avec nous pour y répondre. D'ici là, allez, on prend une bonne respiration, on va s'accorder un petit peu de temps. Bonjour Louis Favre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du festival Je reste à la maison. Il a débuté lundi, il va se poursuivre jusqu'au 7 avril, en tout cas pour l'instant, mais peut-être même après. Vous êtes vous-même directeur associé d'une agence de marketing digital liée au secteur culturel. Et je crois que c'est en voyant ce qui se passait au Portugal que vous vous êtes dit « et si on faisait la même chose ?»
C'est exactement ça. J'ai vu une opération un peu similaire au Portugal d'un ami artiste qui jouait sur Instagram avec différents artistes, avec différents horaires. Et comme vous l'avez dit, moi j'ai une agence qui s'appelle Trade Spotting et on bosse beaucoup avec des acteurs du secteur culturel et notamment de la filière musicale. Et je me suis permis de faire un petit mail à mes contacts en leur proposant ce projet, en se disant bah voilà ce que j'ai vu au Portugal. Je pense que c'est essentiel qu'on mette ça en place en France. Et puis j'ai jeté la petite bouteille à la mer et j'ai reçu une grande vague de mails revenir de plein d'acteurs différents du secteur musical. Et on a réussi à produire un festival avec 95 artistes en direct de la maison des artistes et pour la maison du public via Facebook en 15 jours.
Donc en 15 jours, 95, on dit oui. Peut-être d'autres qui vont venir finalement grossir les rangs de ce premier noyau. Il y a tout le monde qui s'y est mis. Finalement, on produit. C'est la prod du canapé. C'est comme ça que vous l'avez baptisé.
C'est exactement ça. C'est qu'on a réuni les différents corps de métier d'un festival avec responsable de communication, régisseur. Mais comme on fait tous notre métier de notre canapé, on s'est nommé la prod du canapé. C'est un collectif de professionnels de la musique qui ont monté ce festival en place.
Donc les concerts, on les voit où et on les voit quand? Sur des lives Facebook?
C'est exactement ça. On les voit de 16h à 22h30 tous les jours sur la page Facebook de Festival Je reste à la maison. Sur un site, parce qu'on a pensé aussi aux gens qui n'avaient pas forcément Facebook, il y a un site qui s'appelle festivaljereste-à-la-maison.com et on va voir des petits concerts, des concerts d'une demi-heure parce que c'était un peu trop contraignant de prévoir des concerts un peu plus longs. Et de 16h à 17h, on va être sur du jeune public. La réflexion, c'était de se dire que moi, j'ai pas mal d'amis qui sont avec leurs enfants confinés. Et ben, pour le goûter, c'était bien d'avoir une proposition pour les enfants. Donc, on va avoir deux lives de 16h à 17h, deux concerts d'une demi-heure pour le jeune public. Puis à partir de 17h, on va commencer sur des artistes grand public, mais qui pourront être regardés par toute la famille aussi.
Alors ne bougez pas, regardez ce qu'on va entendre très bientôt, justement, sur ce live.
À part les exceptions, les autres sont victimes. Les hommes, bon, ce n'est pas que dans les films. On n'a pas tous les mains qui traînent, je l'ai dit à ma fille. Et si ça t'arrive, il faut qu'ils comprennent.
Certains. L'homme qui fait rimer tout ce qu'il touche, Oxmo Puccino, tendrement. C'est pour bientôt, Oxmo Puccino.
Ça va aller bientôt. On a décidé justement aussi pour garder un peu la surprise pour tout le monde, parce que je pense qu'on a tous besoin d'une petite bulle de divertissement, d'un ton un peu léger en ce moment. Et donc, on annonce la programmation journalière sur la page Facebook à midi. Tous les jours, on annonce le programme du jour. Donc, Oxmo, on ne sait pas quand est-ce que ce sera. Ce sera peut-être bientôt, mais il faut venir voir à midi, voir quel est le menu du jour.
Ah, quel suspense, vous nous donnez envie en tout cas de venir participer. Elisabeth, les musiciens, ils sont nombreux finalement à s'être mis à jouer depuis chez eux.
Hein. Ils sont formidables, hein. ils nous font du bien, hein, parce qu'il y en a énormément, ils se sont tous mis sur les réseaux sociaux pour nous faire partager leur talent. Allez, du côté des chanteurs, allez, Patrick Bruel, chaque jour sur Facebook à 18h30, il chante seul avec sa guitare ses plus belles chansons, des milliers de commentaires et plus d'un million d'abonnés.
Belle, je fais trois pas en arrière, je ne sais rien de ton histoire, on se cherche dans le noir, petit jeu compliqué, même si on sait que les dés sont jetés. Tu enflammes la piste sur cette danse.
Il donne envie de danser seul dans son salon, hein, franchement.
Exactement. On a le sentiment que c'est un concert privé, en fait.
Mais c'est ça. Et c'est ça qui est incroyable en ce moment, c'est que tous les artistes hyper connus ou moins connus, on pénètre comme ça dans leur intimité. Parce que oui, ils sont dans leur salon, on voit les petits tableaux qui sont accrochés derrière, on voit les petits canapés, on voit le verre d'eau qui est posé à côté. On rentre chez eux. Donc ça fait du bien aussi de découvrir un peu l'intimité des uns et des autres à travers les réseaux sociaux. Ils nous font partager leur art. Et donc ça fait du bien, ça fait du bien au moral. Il suffit de voir les commentaires, et des commentaires de mères de famille, de personnes qui sont en train de travailler, des soignants qui rentrent et qui lui disent ça me fait du bien quand je rentre, je le remets en replay et ça me fait du bien. Vous avez aussi Christine and the Queens qui fixe rendez-vous tous les jours à 18h sur son compte Instagram.
Ça fait du bien la musique, c'est
y en
important.
Il y a Jean-Louis Aubert, il y a M aussi qui fait des concerts depuis son salon. Voilà, tout ça, ce sont les petits côtés positifs de ce moment un peu compliqué à passer.
Oui, c'est important dans des moments de stress, effectivement, de tension. D'où cette autre initiative. Elle est signée 10h. Bonjour Arnaud Duranton.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur marketing de Deezer France. Votre idée, c'était de dire on a besoin de nous, donc on va nous offrir gratuitement l'accès à de la musique en illimité.
Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà observé beaucoup de changements dans la manière de consommer de la musique. À la fois, on a plus de personnes qui s'abonnent au service depuis le confinement, mais néanmoins, ils le consomment de manière différente. Pour des raisons assez simples, c'est que la vie a changé. Le matin, on prend plus le métro, donc on consomme moins de musique le matin et le soir. Donc nous, on a décidé à la fois de proposer une offre en France à tous les Français de 3 mois offerts sur toutes nos offres premium, donc à la fois premium et aussi pour les familles, pour les étudiants. Et en parallèle de ça, surtout, on a vraiment adapté notre stratégie éditoriale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation aussi de contenu a changé. On consomme beaucoup plus de playlists thématiques. On consomme pour travailler au calme des playlists, on consomme pour faire du ménage, pour faire de la cuisine.
Donc oui, alors c'est drôle, il y a ménage en musique, cuisine en musique, motivation, la feel good. Vous avez vraiment travaillé sur des playlists qui s'adaptent à toutes les situations.
Exactement. Et donc les Français écoutent 4 fois plus de musique qu'avant pour faire le ménage, par exemple.
Oui, c'est plus agréable en rythme.
Pardon ?
Je disais, c'est plus agréable en rythme. Et puis, je crois que vous avez mis aussi en place quelque chose pour les kids, le hit des kids. Ça, c'est formidable. Parents, sortez, s'il vous plaît. C'est le moment des enfants, c'est un peu ça ?
Exactement. Et on voit aussi une énorme progression des contenus kids et aussi podcasts. Les contenus podcasts pour enfants ont bondi de 300%. Et on a donc développé un maximum de contenus pour eux. Et de la même manière que le yoga et la méditation est aussi quelque chose qui est en ce moment du coup très en vogue au vu de la période. Donc on essaie aussi au maximum de créer des contenus adaptés pour faire du sport chez soi.
Justement, le sport chez soi, les activités, vous parliez du yoga, il y a aussi les livres, Elisabeth, ça marche bien en ce moment pour se cultiver.
Ah oui, les livres, ça marche énormément. Vous avez la FNAC qui a mis à disposition sur son site 500 livres en format numérique gratuit. À Lille, la fameuse librairie Le Furet du Nord propose 5000 e-books à lire sur n'importe quel support, dont plus de 2500 grands classiques complets. Audible Story, qui est une plateforme qui propose gratuitement des livres audio Pour la jeunesse, Cultura, près de 3000 livres numériques sont disponibles en ce moment en format PDF, ou encore la librairie. Allez, je suis partie, allée voir du côté de Roubaix ce qui se passait. La librairie Autour des mots lance un jeu participatif sur les réseaux sociaux. Chaque jour, cette librairie propose une phrase à illustrer par un dessin, une chanson, une photo, et elle publie chaque jour les collaborations à midi sur sa page Facebook. Et encore une association là qui va faire du bien aussi aux personnes qui sont isolées, c'est l'association Lis avec moi qui va lancer des histoires partagées pour garder le lien. Il s'agit d'une chaîne de bénévoles qui propose des lectures d'histoires, de comptines à destination des publics isolés, comme par exemple pour les foyers d'enfants placés, les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile ou encore pour les personnes âgées en EHPAD. L'association Lis avec moi.
Merci Elisabeth pour ces précisions. Merci à 10h hein, de jouer le jeu avec ces 3 mois en illimité. Et puis je vous donne le programme justement pour le festival Je reste à la maison, parce que ça y est, on l'a. À partir de 16h, c'est Robin Cavaillès, 16h30 Radio Minus, et ensuite 17h Black Sidahou, Moloch Monolith, The Twin Soul, Bigger, Sandra NK. Bref, vous allez découvrir tout ça. Ça y est, c'est en ligne. Il est 13h17.
Europe 1.
Et on reste bien calé dans son fauteuil, on baisse la lumière, on vous emmène à l'opéra, ballet et classique au programme. À tout de suite. Et si on partait ensemble à l'opéra? Tiens, fermez les yeux, asseyez-vous, ça y est, vous y êtes? Nous aussi. Bonjour Stéphane Lissner.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur de l'Opéra de Paris. Dès le début du confinement, hein, vous avez pris la décision de mettre à disposition du public les œuvres qui ont fait l'objet de captations, qu'il s'agisse de ballet ou d'opéra. Vous nous donnez à voir les spectacles qui ont été joués sur la scène de l'opéra.
Oui, c'est-à-dire nous avons d'abord des diffusions qui restent jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois d'août et même jusqu'au mois d'octobre. Ça, c'est le cycle des symphonies de Tchaïkovski dirigé par Philippe Jordan, Gisèle, ballet classique bien sûr que tout le monde connaît, et puis les Indes galantes que nous donnons jusqu'au 9 octobre, qui a été ce grand succès de Clément Cogitor. Mais depuis effectivement le début du confinement, nous donnons chaque semaine une nouvelle production à voir. Et ça, je veux dire que c'est surtout très émouvant de voir les résultats que nous avons eus, puisque nous avons eu des chiffres absolument incroyables qui montrent donc l'intérêt. Et je dirais que parmi ce chiffre, si je devais en donner un, je dirais que sur les 1 600 000 utilisateurs qui ont consulté le site et qui ont regardé les opéras depuis seulement 15 jours, eh bien sur ce 1 600 000, 1 100 000 sont des nouveaux utilisateurs pour nous, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas abonnés. Voilà.
Et ça, vous allez donner le goût de l'opéra alors?
Oui, alors, je pense qu'on peut donner le goût de l'opéra, parce qu'au fond, en assistant à une retransmission, ce sont des spectacles qu'on a choisis, qui sont des spectacles qui ont peut-être, certains ont eu les plus grands succès depuis quelques années à l'opéra, et donc beaucoup de gens découvrent l'opéra et peut-être peuvent avoir une idée un peu différente de ce qu'ils croyaient être l'opéra.
Alors justement, en ce moment, voilà ce que l'on peut découvrir. Écoutez. Dépêchez-vous, hein. Jusqu'à dimanche, le lac des Cygnes, c'est ça, Stéphane Lissner?
Oui. Le lac des Cygnes, bon, c'est là aussi, nous avons eu plus d'1,5 million de fois se afficher dans les fils d'actualité des abonnés. Ça veut dire des chiffres absolument incroyables. Et là encore, plus de 400 000 vues en seulement 4 jours, puisqu'il reste jusqu'à dimanche encore le lac, avant d'autres spectacles, puisque nous sommes.
Oui, ensuite ce sera le Barbier de Séville, c'est ça?
Exactement. Ensuite, nous aurons effectivement le Barbier de Séville. Nous aurons un hommage ensuite à Jérôme Robbins. Puis nous aurons la fameuse production culte, un peu, je dirais maintenant, de l'Opéra de Paris, sont les Contes d'Hoffmann, d'Offenbach, et puis ensuite Carmen. Donc nous projetons là jusqu'au mois de mai, de toute façon, l'ensemble de ces productions. Et encore une fois, quand on voit que, n'oublions pas que ce sont des droits pour le monde entier, hein, et on voit que aux États-Unis, premier pays, l'Espagne, le Japon et plein d'autres pays, nous avons également des vues à travers le monde, puisque nous avons obtenu les droits de pouvoir présenter ça en accord bien sûr avec France Télévisions et Culture Box.
Alors vous restez en ligne avec nous. On va changer de registre, de répertoire musical pour rejoindre, si vous le voulez bien, le directeur artistique de la compagnie Musidrama. Bonjour Samuel Sonnet.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes chef d'orchestre et vous avez eu une idée très originale pour ce confinement. On va écouter si vous le voulez bien et vous nous en parlez juste après. Oui, le show doit continuer, effectivement. 48 heures après l'annonce du confinement, vous avez dit il faut agir, il faut faire quelque chose pour que ça continue.
Exactement. Pendant 48 heures, je me suis demandé comment faire mon métier. J'avais très peur de lancer les répétitions par Skype, en visio. Je me dis, mais comment on fait? Moi, j'ai besoin de ce rapport au plateau, de ce rapport avec le live. Et en fait, je me suis dit, mais avant même de retourner sur un plateau, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait y retourner, faut déjà fédérer. Faut déjà relier mes équipes. Et donc, j'ai eu cette idée de concentrer tous les comédiens, les chanteurs, les instrumentistes avec lesquels j'ai pu travailler depuis 20 ans et leur proposer de faire cette vidéo pour donner ce message que le spectacle doit continuer. On ne sait pas encore comment, mais en tout cas, on est là.
Oui, 8 jours. Hein. Vous avez monté un show comme celui-là en 8 jours. 250 000 vues, si j'ai les bons chiffres. La
tout
diffusion, la première, c'était le 27.
C'est ça. À l'heure actuelle, on est monté à 275 depuis hier. Je suis assez content. Ça
continue 135 musiciens.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a, voilà, j'ai écrit toutes les lignes pour les instrumentistes, pour les chanteurs, je leur ai envoyé avec une vidéo tuto pour qu'ils sentent qu'ils travaillent et qu'ils me renvoient une vidéo de leur partie, chanter ou jouer. Et l'énorme chantier, ça a été de tout recaler, de tout mixer avec Nicolas Beignet au son et Harold Simon à la vidéo pour réunir ces 135 personnes dans une unique vidéo.
La suite, c'est quoi? Vous avez déjà quelque chose en tête pour prolonger le show, justement?
Alors, la suite, on est beaucoup dans l'incertitude et là, je suis très concentré sur les grosses incertitudes, comme celle du Festival d'Avignon, par exemple, qui me prend beaucoup de temps parce qu'il faut continuer de travailler comme si de rien n'était et en même temps, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Enfin, on sait qu'on ne sait pas. C'est absolument terrible comme état. Donc, on est dans l'attente. Donc, je vous avoue que mon métier, moi, je le définis comme un rapport au public. Donc, j'ai pas forcément envie de produire régulièrement des vidéos. Déjà, parce que c'est un travail gigantesque et parce que c'est pas le cœur de mon métier. Mais j'ai des idées quand même. J'ai des idées de court-métrage à l'image. Et puis, je continue de travailler pour les créations de mes spectacles sur scène. On travaille comme on peut, à distance.
Alors, on reste ensemble, on est toujours ensemble et on va encore changer de décor, d'univers. Parce que la musique, c'est aussi l'éclectisme. Bonjour Anne-Sophie Brandalise.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous dirigez l'Orchestre National de Paris. Et en ce moment, l'orchestre lui aussi s'invite chez nous. Vous avez d'ailleurs considérablement élargi votre offre numérique. Moi, j'étais bluffée par tout ce que vous proposiez. On peut avoir accès aux coulisses, aux répétitions. On voit les artistes chez eux. Et puis, vous avez mis tout un tas de choses en ligne pour nous rendre le confinement plus agréable.
Oui, je crois que l'Orchestre de Paris a toujours été très présent sur les réseaux et a une communauté parisienne, nationale et internationale très importante, hein, comme l'Opéra de Paris l'expliquait également. Et c'est vrai qu'on a dû, bien sûr, adapter aussi notre offre, l'enrichir et fixer des rendez-vous réguliers avec notre communauté, comme on dit. Notre communauté d'ailleurs qui s'élargit énormément et nous avons aussi beaucoup de nouveaux publics qui viennent nous rejoindre. Donc on a des rendez-vous réguliers tous les matins, hashtag réveil en musique,
oui,
où vous pouvez découvrir une œuvre iconique du répertoire, souvent avec un soliste, en répétition. Donc les coulisses, c'est aussi une manière de tisser des liens particuliers avec nos musiciens de l'Orchestre de Paris et de rencontrer aussi backstage des interviews des chefs et des solistes qui sont présents. Donc ça, c'est une donnée extrêmement importante et on a énormément de retours positifs et le public nous dit bon, merci pour ce moment, à demain matin. Donc on a fédéré ce rendez-vous régulier, je crois, qui est extrêmement important aussi.
Oui, et puis vous avez aussi des petites pastilles vidéo qui vont arriver. Une minute, un musicien, une œuvre, ça démarre le 16 avril, je crois.
Alors le 16 avril, en effet, les pastilles numériques, elles existaient déjà de manière plus ancienne sous le label Figure de Note, où des musiciens en effet présentaient leurs instruments et du répertoire. Et là, nous avons développé une nouvelle offre, un musicien, une minute, une œuvre, qui permettra de présenter des œuvres de la saison prochaine, puisque au-delà des archives nombreuses qu'on peut publier, nous sommes également attentifs à commencer à faire partager la nouvelle saison, la saison 2020-21, qui est déjà accessible en ligne et en abonnement et en place individuelle. Et donc les musiciens de l'Orchestre de Paris vous parlent de manière très brève, très ludique aussi de ces œuvres qu'on pourra découvrir à la Philharmonie de Paris la saison prochaine.
Avec aussi un concert prévu le 13, si mes informations sont bonnes.
Oui, alors il y a des concerts d'abord tous les mercredis soirs. Nous ressortons des programmes que nous avons enregistrés à la Philharmonie de Paris. Donc tous les mercredis soirs, un rendez-vous régulier. Et puis une surprise qu'on est en train de préparer le 13 autour de l'œuvre Andy Music de Schubert dans une adaptation pour chœur et orchestre. Donc là, nous sommes en train d'enregistrer avec les 110 musiciens de l'Orchestre de Paris et les 340 choristes. Donc vous imaginez l'œuvre symphonique et chorale qu'on présentera et qui sera absolument inédite. Puis l'œuvre de Schubert, c'est aussi un hymne à la musique, un hymne à la simplicité et à l'engagement musical. Et vous savez, les musiciens de l'Orchestre de Paris, ce sont aussi des citoyens qui sont extrêmement attentifs à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et donc, leur intérêt aussi est d'accompagner tout le monde sur cette période-là, que ce soit nos fidèles abonnés ou l'ensemble des citoyens qui partagent cette communauté autour de la musique. Ouais.
Et c'est ce que vous faites et on vous en remercie. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h29.
Europe 1.
La culture, c'est à portée de tous, on le voit ensemble, y compris sans bouger. On peut s'évader et vivre des émotions. À tout de suite.
Raphaël Duchemin.
Vous êtes nombreux à regarder vos écrans pendant la journée, pendant la nuit également, adepte des séries, voilà qui va peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons. Bonjour Virginie Maire.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente fondatrice de Cybel, ça s'écrit S-Y-B-E-L. C'est une plateforme de streaming audio, de séries. Je crois que vous avez mis en ligne quelque chose comme 15 000 épisodes aujourd'hui, des documentaires, des comédies, du fantastique.
Oui, tout à fait. On a une large gamme en fait éditoriale qui est proposée en termes de programme, donc en termes de catégories. On a beaucoup de fiction et c'est vrai qu'en ce moment on a un peu besoin de s'évader et donc de s'immerger dans des fictions où l'imaginaire en fait prend tout son rôle. Et effectivement, dans les fictions, on va trouver des thrillers, des comédies, de l'émotion, etc. Donc c'est des fictions qui sont jouées par des comédiens avec énormément de brutal, de musique originale qui permet vraiment de s'immerger, mais aussi
de développer l'imaginaire, de le réveiller.
De vraiment développer son imaginaire. C'est vraiment la genèse du projet de Cybel. C'est un retour à son imaginaire, d'entendre, d'écouter son imaginaire en fait. On n'a pas besoin d'images, il suffit de faire appel à son imaginaire et effectivement on devient son propre réalisateur et tout le récit prend ses propres images à ce moment-là.
Alors ne bougez pas, je crois qu'on a une surprise.
Ça y est, la brèche est ouverte dans le mur. Il tombe.
J'ai sans doute vécu la nuit la plus extraordinaire, la plus exaltante de ma vie depuis la libération de la France. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Lorsque la télévision annonce l'ouverture des frontières, des feux d'artifice éclatent dans les quartiers périphériques. Mais les Berlinois de l'Est...
Vous avez reconnu peut-être derrière le mur, hein, série originale Europe 1 en partenariat avec vous, avec Cybel. On est dans l'histoire.
On le vit, on le revit. C'est vrai que Derrière le mur est un documentaire historique avec un travail d'archives qui est sensationnel. On entend ce mur qui est en train de tomber. Donc ça, c'était effectivement à l'occasion de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Mm-hmm. Puisqu'il y a aussi sur Cybèle tout un tas de documentaires, donc des documentaires historiques, celui-ci, des documentaires scientifiques, des documentaires. Enfin, voilà, pour vraiment que tout le monde puisse s'y retrouver. Et il y a aussi surtout une grosse partie pour les enfants. Et c'est vrai que en ce moment, dans ces périodes de confinement où on essaie tous d'occuper nos enfants aussi à la maison et pas seulement devant des écrans, c'est sûr que ce retour à l'imaginaire, d'aller leur raconter des histoires, des contes, on a tout un tas d'histoires qui sont proposées. Alors évidemment, nous proposons aussi des nouveaux programmes qui sont un peu plus liés à cette actualité compliquée que nous vivons en ce moment. Aujourd'hui, nous sortons un témoignage, une série de témoignages jeunes et confinés.
Donc aujourd'hui, on a un premier épisode. C'est bien, ça permet de libérer la parole aussi, hein, c'est important.
C'est très important, et donc là, on donne la parole justement à des, comme son nom l'indique, à des jeunes de 5 à 18 ans. Aujourd'hui, le premier épisode, c'est la petite Rose, 7 ans et demi, qui nous raconte ses stress à elle, avec ses mots à elle et sa vision, parce que sa maman a eu le coronavirus, et donc elle nous raconte avec toute son émotion. Elle nous témoigne vraiment, elle nous apporte son témoignage de ce que c'est d'être confinée avec son papa, sa maman. Sa grande sœur. Donc là, on va avoir une dizaine de témoignages comme ça qui vont arriver, mais également un gros travail qu'on fait avec une psychologue pour enfants qui va aussi nous aider à nous donner des clés avec un programme de coaching éducatif en fait destiné aux parents pendant cette période.
Bon, bah écoutez, c'est complet en tout cas. C'est vraiment intéressant parce que on sent que vous n'avez oublié aucun aspect. Vous restez en ligne avec nous, si vous le voulez bien. Elisabeth, il y a énormément de choses qui se font. Je voudrais qu'on dise un mot de la Comédie Française.
La Comédie Française s'y met aussi pendant le confinement. La Comédie Française a créé une chaîne. Ça s'appelle La Comédie Continue. Elle est accessible sur le site www.comédie-française.fr. Et là, vous pouvez regardez, tiens, par exemple, le programme du jour aujourd'hui. Alors, la personne qui présente chaque jour, ils appellent ça un speakerin ou un speakerin. Chaque jour, il y a une personne qui présente aujourd'hui, c'est Benjamin Laverne. À 18h30, vous pouvez assister La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute, de Pierre Desproges. Ça dure 1h25. Et ce soir, à partir de 20h30, l'hôtel du libre-échange de Georges Feydeau et Maurice Desvalières, mise en scène d'Isabelle Nanty. Voilà, oui, tout ça.
Ça va forcément nous faire rire aux éclats.
Ça va nous faire Feydeau, rire, c'est la Comédie Française. Et vous avez le programme, il suffit d'aller se connecter sur comédie-française.fr.
Alors, on est toujours ensemble, on est toujours sur Europe 1 et vous allez voir que la stratégie des réseaux sociaux marche aussi à plein régime. Bonjour Thomas Silve.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'agence CETZAR, j'espère que je ne l'ai pas écorché, ça s'écrit C-T-Z-A-R.
CETZAR,
d'accord. Mais il y a un C au début. Et quand vous avez vu le confinement se mettre en place, vous êtes dit aussi il faut agir. Du coup, vous avez fait appel à vos influenceurs, à vos artistes pour qu'ils réfléchissent à la manière de divertir et à faire passer les bons messages aussi.
Alors effectivement, Raphaël, on se rend compte aujourd'hui que les personnes confinées passent jusqu'à 3 heures, 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, la plupart d'entre elles sont isolées, et c'est en ça que les influenceurs. Alors nous, on entend par influenceurs les personnalités fortes des réseaux sociaux avec un vrai talent et une vraie communauté, on se rend compte que ces gens-là sont vraiment en première ligne sur le digital parce que ils touchent des centaines de milliers, voire des millions de followers et de fans. Et donc, ces gens-là ont un double rôle à jouer, effectivement un rôle sanitaire, c'est-à-dire faire passer les bons messages de prévention, mais aussi un rôle de divertissement. Hein. Naturellement, c'est quelque chose sur laquelle on les attend, et donc on a décidé d'être un stimulus de leur art et de les challenger sur effectivement leur expertise. Donc on a lancé au sein de l'agence et sur nos réseaux sociaux un concept qui s'appelle, alors c'est de l'anglais parce que on pense que effectivement ils ont un rôle à jouer partout dans le monde. On a appelé ça hashtag pimp your quarantine. Et l'idée derrière, c'est que tous les deux jours, un artiste, un talent, un influenceur prennent la main sur nos réseaux sociaux, donc on leur donne accès à nos réseaux sociaux et nous fassent des performances de danse, de musique, de mode, etc.
Alors écoutez, justement, je crois qu'on a avec nous une chanteuse. Vous avez peut-être reconnu Ulysses, qui fera un talk show lundi, c'est ça ?
Alors, elle le fera vendredi.
Ça a changé entre temps.
Ouais. Alors, le planning change, bouge en fonction naturellement des disponibilités des différents talents. Mais oui, on attend beaucoup de ce talk show avec Ulysses qu'on suit depuis de nombreuses années, effectivement.
Vous restez avec nous. On est toujours dans notre canapé. On va partir à l'Apollo Théâtre. Bonjour, Philippe Delmas.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez eu envie de mettre en place spécialement pour cette période des one-man shows en live streaming. Les spectacles démarrent lundi, c'est ça ?
Ils démarreront la semaine prochaine.
Ouais.
On n'a pas la date exacte, ce sera sur le site de l'Apollo. Et en fait, on combine visio et streaming live, en fait.
Alors, expliquez-moi, ça marche comment ? C'est-à-dire qu'il y a vous avez
Apollo
mis des écrans LED dans le théâtre ?
Oui, tout à fait. L'Apollo était déjà équipé de caméras fixe pour streamer, pour envoyer en live les spectacles qui s'y déroulaient. Donc ce qu'on a rajouté, en fait, ce sont des écrans LED qui permettront aux artistes, à l'artiste sur scène, de pouvoir communiquer avec le public.
Donc les gens qui ont envie de venir voir ce spectacle, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'inscrivent
Oui, ils vont sur le site de l'Apollo. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a le système de visioconférence, donc ça, c'est le public vraiment dans la salle, en visio. Et après, il y a le public qui va vouloir regarder le spectacle et regarder ce qui se passe entre l'artiste et les gens qui sont en visio. Donc, les gens en streaming, eux, ils iront simplement sur le site de l'Apollo, prendront une place, ils pourront regarder le spectacle. Et les gens en visio seront sélectionnés pour pouvoir assister au spectacle en visio.
Elisabeth ?
Moi, j'ai reçu un témoignage de Marc Marco 91300 sur Twitter qui me dit moi j'ai participé hier à l'initiative du théâtre de la colline. Le théâtre de la colline c'est à Paris, au creux de l'oreille ça s'appelle. Un comédien m'a appelé pour me lire des poésies ou des textes. Il m'a lu deux chapitres d'un auteur turc. C'était génial.
On s'aperçoit finalement, que ce soit au Théâtre de la Colline ou au Théâtre de l'Apollo, que finalement, vous aviez déjà beaucoup d'imagination, mais c'est sans fin. On peut comme ça inventer de nouveaux modes de communication et finalement redécouvrir autrement le théâtre.
Oui, exactement. Au-delà du public parisien qui pouvait venir et qui pourra venir, je l'espère, le plus tôt possible dans les salles de spectacle, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient fans de certains artistes et qui ne pouvaient pas y accéder parce qu'ils sont à Biarritz, ils sont à Lyon, ils sont à Marseille. Donc c'était déjà pour nous un moyen de pouvoir donner accès à ces gens-là, à ces spectacles-là, vous voyez. Maintenant, on a un petit peu détourné la chose, on a rajouté du visio pour que l'artiste puisse avoir en face et en live des gens à qui s'adresser. Le stand-upper, le one-man show a besoin d'avoir de l'artiste en face de lui, du public, pour interagir, pour vanner. Enfin, vous connaissez le système du spectacle. Donc,
oui.
C'est ça l'intérêt. Parce qu'un artiste seul sur scène qui joue, ben, c'est compliqué de jouer devant une salle vide. Là, nous avons, si vous voulez, l'artiste devant lui, il a des écrans. Il est en direct avec une vingtaine de personnes ou trentaine de personnes. D'accord ?
Donc des privilégiés,
c'est
en quelque sorte.
Sont reprises, exactement, ouais. Elles sont reprises derrière lui, pour que les gens qui vont regarder le spectacle en streaming, qui sont pas, comment dire, qui vont pas agir, pourront aussi voir la réaction des gens qui sont vannés ou qui sont dans l'interaction.
Bien sûr.
Vous voyez. Donc on a 40 écrans en fait.
Bon, on a hâte d'y être, on a hâte de voir ça dès la semaine prochaine. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
Europe 1.
Et si on allait au musée ? On va aller au musée d'Orsay, tiens. Et vous allez voir qu'il y a aussi pas mal d'initiatives collaboratives qui sont en train de se mettre en place. À tout de suite. Et oui, chose promise, chose due, nous partons pour le musée d'Orsay parce que les musées aussi sont évidemment en mode confinement. Bonjour Eric Jouvenot.
Oui, bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le community manager du musée d'Orsay. Vous avez demandé aux artistes, aux personnalités de s'associer et de faire eux-mêmes découvrir finalement les œuvres qui les touchent particulièrement au musée. Comment ça s'est organisé cette opération confinement?
Tout à fait. Alors, c'est l'opération confinement, en fait, on l'a commencé même presque un petit peu avant le confinement, puisque dès le 13 mars, le musée d'Orsay et d'autres musées ont fermé. Donc, dès cette date-là, on a commencé à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire pendant cette période de fermeture, avant même de parler de confinement, comment amener nos collections et nos événements malheureusement fermés vers le public. Et évidemment, ça pouvait passer beaucoup par notamment les réseaux sociaux dont je m'occupe au sein du musée d'Orsay. Et donc, en effet, comme vous le disiez, parmi les initiatives que nous avons prises, il y a celle d'inviter des personnalités du monde culturel, du monde intellectuel, à porter leur regard pendant une semaine sur des œuvres de nos collections. Actuellement, depuis quelques temps, il y a au musée d'Orsay l'opération Orsay vue par, où il y a des expositions qui sont organisées, un mélange entre les collections du musée et les productions d'artistes contemporains. Donc c'est Donatien Gros qui s'occupe de cela au sein de notre établissement. Et donc il a proposé de contacter les personnalités avec lesquelles il travaillait déjà pour qu'elles prennent la parole via nos réseaux pendant cette période de confinement.
Donc il y a eu Maëlys de Kerangal. Vous attendez, je crois, Abdel Malik aussi.
Voilà, Maëlys de Kerangal, c'est en ce moment, c'est cette semaine. Elle a déjà parlé de Monet, de Degas, de Courbet. Aujourd'hui, elle va nous parler du portrait de Proust par Jacques-Émile Blanche. Donc c'est le regard d'une écrivaine sur le portrait d'un écrivain. Et elle nous parlera ensuite pour terminé dimanche de Berthe Morisot. En effet, on espère aussi pouvoir avoir l'intervention donc cette semaine avec Abdel Malik. On n'est pas encore sûr des dates, mais il y a de bonnes chances que ça puisse se faire. La semaine prochaine, ce sera un philosophe, Emanuele Coccia, qui sera là sur le réseau
italien.
Philosophe italien, spécialiste de la nature du vivant, des rapports entre l'homme et la nature, auteur notamment de La vie des plantes. Et je pense que son regard sera très très intéressant en cette période sur nos collections.
Et puis ce qui est formidable aussi, c'est que du coup on découvre des œuvres qui sont moins connues. Vous postez aussi des séries de paysages avec des commentaires. Finalement, on découvre le musée autrement.
Tout à fait. Pour nous, ce qui était important, c'est d'amener les collections vers le public et de garder un lien avec ce que tout le monde vit en ce moment à travers le monde. Et donc, on s'est dit qu'une bonne option, c'était de profiter des collections d'Orsay pour ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, permettre à notre public de sortir et donc de proposer cette série de paysages. Donc, tous les jours, à midi, on publie un paysage sorti des collections du musée d'Orsay avec le commentaire de cette œuvre, évidemment. Donc les plus beaux paysages du Monet, des Van Gogh, des Courbet, etc. Donc je pense que ça offre, et on le voit dans les commentaires qu'on reçoit, une vraie respiration pour notre public, et on a beaucoup de remerciements. Je pense que les musées ont un vrai rôle à jouer de soutien, d'accompagnement dans ce qui se passe en ce moment.
Et effectivement les artistes qui viennent justement ouvrir finalement leur petit musée personnel, comme la semaine prochaine, on l'espère, Abdel Malik, que vous citiez et qu'on va écouter.
On rêve de musée, mais pas d'être muséifié. Sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages. Dehors, la désolation contemple son ouvrage. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée.
Extrait du Jeune Noir à l'épée, évidemment. Ce qui est bien avec le confinement, c'est qu'on est tous dans nos canapés et qu'on a tous, vous allez voir, un potentiel en nous qui ne demande qu'à être révélé. Bonjour Marc Lenné.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes artiste, vous êtes metteur en scène à la Comédie de Valence. Vous êtes évidemment à l'arrêt en ce moment, mais vous avez décidé de mettre ce temps entre parenthèses à profit justement pour faire une sorte d'échappée intérieure. Je crois que d'ailleurs c'est le nom de ce que vous avez mis en place aujourd'hui pour nous inviter à participer, c'est-à-dire ?
Alors, oui, effectivement, quand nous avons été à l'arrêt, à la Comédie de Valence, nous sommes aperçus que, eh bien, notre cœur de mission, à savoir la création artistique, devait, malgré tout, continuer. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'elle continue en créant du lien avec le public et en offrant à ce public des ouvertures, des perspectives, en partageant l'art. Et donc la première proposition qu'on a faite, c'est une proposition que vous avez nommée, qui s'appelle l'échappée intérieure, et l'idée est de proposer au public de participer à une grande chaîne narrative infinie. Le principe est très simple, c'est une sorte de cadavre exquis littéraire. J'ai commencé un premier texte à la seconde personne du singulier, qui initie un voyage, et chaque jour, un spectateur peut écrire et prolonger ce voyage. Son texte est publié à la fois sur les réseaux sociaux et sur le site de la Comédie. Donc c'est assez beau parce qu'on a eu assez vite comme ça un grand nombre de participants qui se sont inscrits. Et ce qui est très beau, c'est de découvrir chaque jour de nouveaux textes qui prolongent ce voyage mental, ce voyage imaginaire, et en même temps, par le biais de la fiction, nous racontent comment chacun perçoit, ressent cette épreuve qu'est le confinement.
C'est 750 000 signes, c'est ça par personne? On peut aller au-delà? Alors, si on est inspiré?
On peut aller au-delà, en fait. On s'est aperçu qu'il fallait être empirique, et en fonction des propositions, on s'adapte. Et il y a un gros travail, c'est un atelier d'écriture, en fait, qui est fait via Internet. Il y a un gros travail de relecture, de retravail avec les participants. Et aujourd'hui, effectivement, à la fois on va dire la longueur des textes, mais aussi le ton des textes varie en fonction des participants. Mais ça, c'est plutôt enthousiasmant et joyeux, cette espèce de réinvention permanente du projet.
Alors, il y a un autre projet, c'est un peu le pendant, mais en dessin, si j'ose
Exactement.
Dire, parce que vous avez lancé des carnets de voyage immobiles, c'est ça?
Oui, exactement.
Je peux, par exemple, vous dire, tiens, en ce moment, à la question où est-ce que tu aimerais être, ben moi, j'aimerais être tout en haut d'une montagne, et je vais vous la décrire.
Absolument. Et Stéphane Zimmerli, qui est artiste associé à l'ensemble, dans l'ensemble pluridisciplinaire de la Comédie, va, guidé par vos mots, dessiner face à vous, en direct, ce paysage imaginaire, ce paysage idéal dans lequel vous souhaiteriez, à l'instant précis, être téléporté. Là encore, c'est une manière de rentrer en interaction avec le public et d'essayer de lui apporter une ouverture, une perspective dans l'espace clos qu'il est contraint d'habiter. Stéphane Zimmerli est un dessinateur assez exceptionnel, qui a tous les styles, mais qui peut dessiner de manière extrêmement réaliste. Et donc, c'est en quelque sorte le portrait robot de ce paysage imaginaire qu'il dresse avec vous. Et le dessin s'arrête quand le participant reconnaît ce paysage idéal. C'est une proposition qu'on fait 3 à 4 fois par semaine, parce que c'est évidemment, ça prend du temps de faire un dessin assez poussé, mais on peut s'inscrire sur le site de la Comédie et donc voir ce paysage imaginaire traduit en dessin, un dessin sensible évidemment, par Stéphane Zimmerli.
Il y a énormément d'initiatives. Elisabeth, je voudrais qu'on s'arrête aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, sur le cinéma. Le cinéma, c'est important. Et alors, il y a énormément de choses à voir ou à revoir.
Il y a énormément de choses. Alors déjà, très bonne nouvelle, hein, Franck Riester, le ministre de la Culture, l'a annoncé hier. La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie autorise le CNC à accorder, à titre exceptionnel, une autorisation de diffusion anticipée pour certains films qui sont sortis donc il y a à peine quelques semaines. Donc vous avez toute la liste sur cnc.fr pour pouvoir regarder des films récents. Sinon, vous avez aussi le groupe, autrement, vous avez le groupe MK2 qui met en ligne un programme avec une sélection d'œuvres, de films, de documentaires, de courts-métrages. C'est une offre qui est mise en place jusqu'à la fin du confinement avec son magazine 3 couleurs. MK2 a aussi lancé le concours du court-métrage confiné. C'est dans le cadre de leur festival à la maison. Ils ont donc décidé d'organiser ce concours de la réalisation du court-métrage pendant toute la période du confinement. Donc on peut voir des films et pourquoi pas en réaliser.
Et puis on peut aller à Lyon aussi si on a envie. Il y a pas
Alors,
mal de choses
Lyon,
qui se passent
à Lyon.
Il
y a énormément de choses. D'abord, la bibliothèque municipale de Lyon a mis en place toutes les ressources numériques. Il suffit de la ville, il suffit de s'inscrire en ligne en remplissant un formulaire et évidemment c'est gratuit. Le musée des Beaux-Arts de Lyon qui a mis en ligne une grande variété de contenus pour découvrir les œuvres des collections, des œuvres sur les traces de l'Égypte antique, la sculpture sculptures, les impressionnistes, bref, pour occuper, chacun peut s'occuper avec le musée des Beaux-Arts de Lyon, le musée d'art contemporain aussi, l'Opéra de Lyon qui eux aussi produisent de multiples contenus sur le site web et ainsi que sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Elisabeth, et merci à tous d'avoir participé à ce voyage culturel avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h54.
Europe 1.
Et on va rester ensemble, on vous attend 3921 et Twitter, hashtag Radio Ouverte. Vos questions, les réponses de notre expert Roland Pérez dans un instant. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
C'est l'heure de retrouver l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez, qui nous rejoint tous les jours juste avant 14h. Bonjour Roland. Est-ce que Roland nous entend? Est-ce que Roland est avec
je
nous?
Aujourd'hui, je m'attaque à...
Roland,
oui, moi,
Roland,
je vous entends. Vous
n'entendez
pas?
Roland est là.
Vous avez perdu.
Heureusement.
Oui. Roland, bonjour à tous. On a des questions, comme tous les jours, pour vous, évidemment. Oui. On a Michel, par exemple, qui nous dit... Ma fille a sa carte bancaire bloquée dans un distributeur. Aïe, aïe, aïe. Mais avec le virus, l'agence est fermée. Donc, je ne sais pas comment l'aider. J'aimerais lui apporter de l'argent. Je ne sais pas si ça entre dans le cadre des urgences pour l'autorisation de déplacement. En gros, qu'est-ce qu'elle peut faire, Michel, pour aider sa fille? C'est vrai que ça a l'air un peu compliqué comme ça.
Ouais, c'est un petit peu compliqué. Alors d'abord, elle peut évidemment faire des démarches en ligne. D'abord, là, je parle de sa fille. Elle peut d'abord faire des démarches en ligne pour essayer de voir dans quelle mesure elle peut voir débloquer sa carte ou qu'on peut peut-être lui adresser une autre carte. Ça, elle peut le faire en ligne avec ses conseillers qui restent en télétravail, donc ils peuvent parfaitement rester en contact avec les usagers des banques. Et puis surtout, pour la maman, les retraits d'argent et les démarches bancaires demeurent autorisés. Donc elle peut effectivement aller retirer de l'argent pour elle et lui apporter, puisque le retrait d'argent est autorisé, que ce soit pour elle ou pour sa fille, elle peut parfaitement lui apporter en expliquant évidemment la situation, se munissant de l'attestation de sortie qui prévoit d'ailleurs ces retraits d'argent. Ça rentre dans les déplacements faits pour des besoins essentiels. Et puis, elle expliquera la situation avec sa carte d'identité.
Alors, autre question qui nous est posée sur le hashtag Radio Ouverte, c'est Brigitte cette fois hein, qui vous demande, Roland, je suis en arrêt de travail pour garde d'enfants, mais au bout de quelques jours, mon entreprise a placé tous les salariés en chômage partiel. Est-ce que je suis toujours considérée comme étant en arrêt maladie ou est-ce que du coup, je passe moi aussi en chômage partiel?
Ah oui, c'est une question un peu délicate. En fait, l'arrêt a pris le pas au départ, l'arrêt de travail pour pouvoir garder, j'imagine, ses enfants qui étaient mineurs, elle bénéficiait de cet arrêt de travail. Donc cet arrêt de travail qu'il ait été fait pour 14 jours ou 20 jours, a priori il avait dû être fait pour 20 jours, il ne sera pas renouvelé, mais il va demeurer pendant 20 jours, c'est-à-dire qu'elle va percevoir de sa caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières, probablement complétées ensuite par l'employeur pour percevoir son salaire total. Et ensuite, à la fin de cet arrêt, que ce soit 14 jours ou 20 jours, eh bien, elle bénéficiera du chômage partiel exactement comme les autres salariés. Mais on va laisser s'écouler d'abord le premier arrêt de travail qui avait été ordonné, en tout cas accepté.
Oui, voilà pour la réponse à Brigitte. Évidemment, vous continuez à